Ce soir, on va se souvenir de quelqu'un qui nous a quittés il y a 20 ans déjà, sans lequel je ne serais pas là, et sans lequel, plus largement, la musique que je diffuse en général n'existerait pas. Sans doute une des chansons les plus diffusées au cours de l'année 1971 partout dans le monde, My Sweet Lord de George Harrison. Vous entendiez ça dans les fêtes foraines, aux auto-tamponneuses par exemple, bien plus que Imagine de Lennon. Alors comme je vous le disais avant-hier, on a tendance à l'oublier, mais des anciens Beatles, eh bien George Harrison est celui qui en solo a connu, en tout cas au début des années 70, le succès le plus éclatant. Je vous ai longuement parlé avant-hier de la mini-série télévisée de 6 heures Get Back, consacrée aux Beatles, constituée d'images en grande partie inédites et qui remet de façon inattendue le groupe dans l'actualité. Vous pourrez découvrir cette série à la fin du mois prochain. Ce sera sur la plateforme Disney. Un montage d'archives que personne n'avait encore jamais vu, montrant les Beatles au travail en janvier 1969. Le tout a été supervisé par le cinéaste néo-zélandais Peter Jackson. Alors, un des aspects les plus intéressants de ce document, c'est l'éclairage que celui-ci apporte sur la personnalité de George Harrison. Parce qu'au sein des Beatles, il est alors clairement le plus mal à l'aise. Agacé, rétif à tous les projets dont le groupe débat, négatif, il apparaît nettement comme un frein à la progression du groupe qui, en ce début d'année 69, reste possible. Oui, tout est encore possible en cette période, tout est ouvert. Le groupe n'est absolument pas condamné, contrairement à ce qu'on a pu entendre par la suite. Lors de ces conversations captées entre les quatre musiciens et leur entourage, on en a d'ailleurs toutes sortes de preuves. C'est que George Harrison est dans cet état bizarre parce qu'il est en pleine métamorphose. Oui, le petit frère effacé de Lennon et McCartney, qui plaçait quelques compositions par-ci par-là dans les albums du groupe, est en train de se transformer en un auteur et interprète de premier plan. Il revient alors d'un voyage aux États-Unis. Il était à Woodstock, près de Woodstock, dans la campagne au nord de New York. C'est là qu'il a rencontré les musiciens du groupe The Band et Bob Dylan, dont il est devenu l'ami et le collaborateur. Ils ont même écrit deux chansons ensemble. Et ce séjour s'est révélé pour lui une très grande source d'inspiration. Harrison est celui qui, avec McCartney, est le plus créatif. Il apporte de nombreuses chansons nouvelles, mais il apparaît très clairement qu'elles ne trouveront pas leur place dans le cadre des Beatles. Alors, ce sont des choses qu'on a oubliées, mais enfin, il faut quand même rappeler que l'annonce de la séparation des Beatles en avril 1970 est en fait un coup de publicité. Je m'explique. Un coup qui a été décidé unilatéralement par McCartney pour faire la promotion de son premier album solo, une affaire modeste qu'il avait bricolée à la maison. En réalité, John avait lâché le groupe depuis un an au moins. Et durant cette période où les relations entre les deux amis et collaborateurs sont au plus bas, John trouve extrêmement inélégant, c'est une litote, que Paul ait fait cette annonce juste pour attirer l'attention sur la sortie de son album. La réalité, c'est que pour Paul qui tenait la boutique, la séparation du groupe est un échec personnel et sans doute une source d'angoisse pour l'avenir. Mais aux yeux de George, c'est une véritable délivrance, puisque en janvier 69, il pense déjà à la suite. Il a, pour ainsi dire, pris de l'avance sur les autres, parce qu'au fond, en tant qu'auteur et interprète, il a du retard à rattraper. Il s'imposera en tout cas le premier avec éclat à la fin de l'année 70 en solo, publiant carrément un triple album à l'impressionnante ambition All Things Must Pass, sur la couverture duquel il apparaît avec sa longue barbe et son grand chapeau, assis sur une chaise au milieu d'un grand parc vide. Alors, il y a 30 ans, en 2000, une première et excellente réédition présentait cet enregistrement à nouveau, faisant entendre un son dépoussiéré et rafraîchi, repris aux bandes matrices d'origine. 20 ans après, en 2020, pour célébrer les 50 ans de la naissance de cet album, c'est carrément un coffret de 5 CD ou 8 albums vinyles qui est en fait sorti, un peu plus tard l'été dernier, 2021. Et qui présente pas mal d'inédits, des maquettes notamment et des versions de travail qui nous font partager l'intimité du travail de Harrison. Alors, tout ça m'a donné l'idée, pour le Very Good Trip de ce soir sur France Inter, d'explorer le parcours qu'a suivi Harrison pour s'affranchir des Beatles. On le sait, une part de ses compositions en solo au sein du groupe, pas en totalité, mais en partie, tient à sa découverte passionnée de la musique indienne. Tout était parti pour lui d'une musique qu'il avait entendue avec émerveillement dans un restaurant indien à Londres. Ça l'avait conduit à prendre des leçons en Inde auprès du maître du sitar, Ravi Shankar. Et je me rappelle avoir découvert en face B du 45 tours des Beatles Lady Madonna, sorti au printemps 68, cette chanson qui ne ressemblait à rien de ce qu'avaient enregistré les Beatles jusque-là, même pas à Within You, Without You, très indianisant, dans l'album Sgt. Pepper. Cette chanson s'appelait The Inner Light et curieusement, quand je la réécoute, tout comme une version de travail de Lang Lang Lang, on écoutera ça juste après, un titre qui figure dans le double blanc des Beatles, eh bien je pense beaucoup aux chansons de Syd Barrett, le fondateur de Pink Floyd. On écoute George Harrison en 68, encore au sein des Beatles.
Without going out of my door, I can know all things on earth. Without looking out of my window, I can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one the less one really knows. Without going out of your door, you can know all things on earth. Without looking out of your window, you can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows. Arrive without traveling. See all without looking. Do all without doing.
One, two, three, four. Very good trip.
Shoot.
Sur France Inter. Mishka Assayas.
It's been a long, long, long time. How could I ever have lost you?
Only you keep my eyes open wide. I owe? Only sadness from all that is grown. In this darkness I wait for the day. Yes, it's true.
I Live For You, une chanson écrite et enregistrée par George Harrison en 1977. Alors, initialement, elle devait figurer dans le triple album All Things Must Pass avant d'être finalement écartée. On se demande pourquoi. Et puis, alors depuis, elle circulait sous le manteau, comme on dit. Et quand l'album a été réédité une première fois en 2000, juste avant la mort de Harrison, eh bien, celui-ci a souhaité, ou peut-être qu'il a simplement accepté, je l'ignore, hein, qu'elle figure parmi les inédits et suppléments retenus. Dans I Live For You, eh bien, Harrison est notamment accompagné par un musicien américain, Pete Drake, qui joue d'un instrument typique, sinon emblématique de la musique country. Bah oui, vous avez entendu sur sonorité ce qu'on appelle la pedal steel guitar. Vous savez, c'est cette espèce de grande sitar dont on joue assis avec un pédalier, avec laquelle on peut faire des effets de glissando et de vibrato qui évoquent un peu la musique hawaïenne. Alors Pete Drake, il se trouve qu'il avait accompagné à cet instrument Bob Dylan pour ses deux albums, John Wesley Harding, qui était sorti au début de l'année 68, et puis Nashville Skyline au printemps 69, hein, le plus country des deux. Et l'influence, en fait, il y a deux influences. L'influence s'était en fait exercée dans les deux sens. Dylan avait révélé à Harrison la beauté des musiques traditionnelles américaines, de la country notamment, et Harrison avait montré à Dylan des accords de guitare que celui-ci, paraît-il, ne connaissait pas. Et ensemble, ils avaient écrit deux chansons, I'd Have You Anytime, elle figure dans All Things Must Pass, ainsi que If Not For You, dont Dylan avait chanté sa propre version dans son album New Morning, qui était sorti juste un mois avant celui de Harrison. Alors George Harrison a enregistré All Things Must Pass dans divers studios londoniens, notamment à Abbey Road, avec le concours de l'art d'une pléiade de musiciens, dont Eric Clapton et ses accompagnateurs américains qui venaient du sud des États-Unis. Je veux parler du groupe Derek and the Dominoes. Et c'est le fameux producteur musical américain Phil Spector qui a co-réalisé ces séances. Alors, comment ce fameux Spector, qui était alors une gloire du début des années 60, au prestige encore intact, hein, vous savez, l'homme des tubes Be My Baby et Daddy Run Run, matrice du yéyé en France. Comment s'était-il retrouvé à superviser en partie ce premier album de chansons, hein, de George Harrison? Oui, je précise, premier album de chansons, parce que Harrison avait publié avant, du vivant des Beatles, deux albums de musique instrumentale qui avaient eu un écho extrêmement limité. Eh bien, en fait, c'est John Lennon qui est le premier a eu l'idée de faire venir Spector, une de ses idoles de jeunesse, au chevet des Beatles, qui n'existaient déjà plus. J'explique plus exactement, c'est l'homme d'affaires new-yorkais, Alan Klein, qui avait été engagé sous la pression de Lennon pour mettre de l'ordre, justement, dans les affaires désastreuses de la compagnie Apple, formée par les Beatles. Et Klein avait eu l'idée de sortir son ami Spector, qui était un relatif has-been à l'époque, mais à l'aura intacte, de sa retraite forcée. Alors, au début de l'année 70, Spector est là pour assister Lennon dans la réalisation de sa chanson Instant Karma. Il met de l'écho partout, sur la voix, sur le piano, sur la batterie, bien sûr, sur les chœurs aussi. Hein, c'est sa marque et ça marche, mais du feu de Dieu, la chanson est un tube mondial. Le 45 tours, rien qu'aux États-Unis, s'écoule à plus de 1 million d'exemplaires. Alors, Alan Klein a juste quelques mois pour sauver les Beatles qui, de fait, déjà n'existe plus, de la banqueroute. Il a une idée. Récupérer les bandes d'un projet abandonné en route, un album qui devait s'appeler Get Back, enregistré avant Abbey Road, dont personne ne sait que faire. Klein demande à Spector de se débrouiller pour en tirer quelque chose. Le groupe est mort, peu importe, il faut que l'argent rentre. Et c'est ainsi que Spector assemble les chansons dans un certain ordre. Il récupère des bouts de conversation ici et là, des bribes de chansons semi-improvisées pour créer une ambiance et il ajoute évidemment son fameux écho partout. Il récupère aussi une chanson de Lennon, abandonné en 68, Across the Universe, dont, en fait, il ralentit la vitesse. Vous avez dit qu'il l'avait accéléré, en fait, je me suis trompé, en fait, il l'a ralenti. Et surtout, il décide d'orchestrer à sa façon extrêmement chargée une ballade au piano de Paul McCartney, très connu, The Long and Winding Road, qui se termine par une espèce de, en apothéose, par une espèce de chœur wagnérien de Valkyrie. Paul McCartney, à qui Lennon a déjà imposé Alan Klein, lui aurait préféré le père de sa nouvelle fiancée, l'homme d'affaires Eastman, s'étrangle de rage et écrit une lettre incendiaire qui se conclut par « plus jamais ça ». Alors Lennon, par fierté, évidemment parce que c'était son idée, se déclare, lui, enchanté du résultat. Bon, je vous ai déjà longuement parlé de tout ça lundi. Voilà, si vous avez envie d'en savoir plus sur tout ça, eh bien écoutez le podcast de l'émission. Quoi qu'il en soit, George Harrison est trop heureux de collaborer avec un des héros de sa jeunesse, même si Spector ne se montre pas vraiment à la hauteur de sa réputation. Il est déjà gravement alcoolique, il arrive des heures en retard en studio, il disparaît plusieurs jours et un jour, complètement imbibé, il se casse le bras pendant une séance. Enfin, l'intérêt en tout cas de cette nouvelle réédition de l'album All Things Must Pass, c'est qu'une équipe a été supervisée par Danny Harrison, le fils de George, et sans dénaturer l'enregistrement initial, eh bien cette équipe a mis une sourdine sur les effets surchargés de Spector, ce qui permet de faire mieux entendre la voix de George Harrison, parfois noyée sous des couches orchestrales. Donc c'est un peu nettoyé. C'est tout à fait flagrant dans cette chanson que certains jugent à juste titre la plus belle de l'album, Beware of Darkness.
Watch out now, take up your word for falling swingers. Dropping all around you. The pain that often mingles in your fingertips. Beware of darkness. Watch out now, take care of the world.
watch out now. Take up your work, some choose your place. Dancing down the sidewalks as each unconscious sufferer wanders aimlessly. Beware of Maya. We'll be right back.
another day. Now the darkness only stays the night time. In the morning it will fade away. Daylight is good at arriving at the right time. It's not
All things must pass. Pas facile à traduire, hein. Je proposerais tout doit se dissiper. Hein, c'était la chanson du triple album que George Harrison a publié à la fin de l'année 1970 et que l'on redécouvre sous un autre jour, hein, grâce à une très riche réédition de pas moins de 5 CD qui éclaire cet enregistrement sous un nouveau jour. Voilà, je l'ai déjà dit. Alors, il est certain que seule une infime minorité de passionnés écoutera avec dévotion l'intégralité de ces esquisses, maquettes, séances de travail et improvisation qui éclairent la genèse de l'œuvre. Mais enfin, les maquettes, c'est toujours intéressant. Il y en a, et c'est parfois mon cas, qui les préfèrent aux chansons, les chansons qu'embellit et enrichit un travail d'orchestration, lequel peut leur donner parfois un relief qu'elles n'ont pas toujours au naturel. Je sais pas, c'est comme on peut préférer un dessin ou une estampe à un tableau achevé. Et les maquettes de George Harrison, c'est toujours digne d'intérêt. Sa voix à nu a une beauté singulière, un peu déchirée. Alors dans la chanson qu'on vient d'entendre, vous l'avez entendu, hein, la patte de Phil Spector est très présente. On entend ses nappes de violon déliquescent à l'arrière-plan. On baigne dans une de ces ambiances wagnériennes à la fois grandiose et crépusculaire que Spector affectionnait. Cependant, dans ce nouveau mix, supervisé, je vous l'ai dit, par Danny, le fils de George Harrison, la voix semble plus présente, en tout cas moins noyée. Et puis, toute trace d'écho a disparu et c'est franchement mieux. Alors les titres, évidemment, c'est toujours ambigu, c'est évidemment ce qui leur donne toute leur beauté, leur richesse poétique, mais enfin, « All things must pass », tout doit se dissiper, c'est pas du tout une élégie nostalgique où Harrison regretterait la fin du rêve utopique des années 60. Non, il y a rien d'amer ou de désabusé dans cette chanson et Harrison n'est pas Lennon, j'allais dire un peu vite peut-être, au contraire. Cette chanson dit à la lettre que les plus sombres nuages un jour seront chassés, que le crépuscule n'est pas durable et que les liens qui dans la vie vous emprisonne, finissent un jour par céder. C'est dans ce sens-là que tout doit se dissiper. Alors on s'est beaucoup moqué de Harrison dans les années 70, on a brocardé sa grande barbe de patriarche, ses rêves d'amour universel, ses chansons qui prônaient voilà l'amour, la paix dans le monde, mais c'est peut-être ne voir que la moitié du tableau. Dans le très beau documentaire que le cinéaste bien connu Martin Scorsese a consacré à Harrison, qui s'appelle « Living in the Material World », c'était le titre d'un des albums de Harrison dans les années 70, eh bien on découvre un personnage bien plus complexe qu'on ne l'imaginait, qui était travaillé par une dualité qui le déchirait. Oui, il y avait en Harrison une colère, une impulsivité, un aspect torturé, une tendance à la dépression que l'on ne soupçonnait pas. Son amour compulsif des femmes a eu raison de son couple et sa dernière femme, Olivia, avoue qu'elle en a beaucoup, beaucoup souffert. Il a passé quelques années sous l'emprise de la cocaïne et dans ce contexte, son aspiration à la paix intérieure, sa pratique du yoga, des mantras, vous savez, ces prières que l'on répète jusqu'à l'hypnose, sa pratique de la méditation transcendantale, eh bien, ce sont autant de techniques qu'il a adoptées, pas toujours avec succès, pour venir à bout de ses démons intérieurs. Et oui, alors je vais citer les paroles d'une chanson, « Comme c'est malheureux, comme c'est dommage, comme on se brise le cœur les uns des autres, comme on se fait souffrir, comme on prend l'amour de l'autre et on cesse d'y penser, oubliant de rendre ce qu'on nous a donné, comme c'est malheureux. Nina Simone a chanté une version magnifique de Isn't It a Pity, et là c'est George Harrison qui chante l'original.
Isn't it a pity? Isn't it a shame how we break each other's hearts and cause each other pain? Take each other's love without thinking anymore, forgetting to give back. Isn't it a pity? Now some things take so long, but how do I explain? We're not too many people can see we're all the same. And because of all the tears, their eyes can't hope to see. The beauty that surrounds them, isn't it a pity?
Vertigo Trip sur France Inter. sides. Which way you will turn while feeling that our love is not your concern. It's you that decides.
Run of the mill, c'est une expression qui en anglais signifie banal, ordinaire. Une chanson qui figure dans l'album All Things Must Pass de George Harrison, à la réédition duquel on consacre une partie du Very Good Trip de ce soir sur France Inter. Alors, c'est pas la chanson la plus connue, mais c'est peut-être une des plus révélatrices de Harrison. Elle prend la forme d'un dialogue. Enfin, pas exactement, c'est plutôt d'un discours que quelqu'un fait, on ne sait trop à qui, à un autre très proche auquel il dit à peu près, voilà, tu as le choix, écouter ma voix ou l'ignorer, me suivre ou non, en gros. Hein. Alors le style de la chanson, c'est intéressant, c'est assez proche de celui du Cat Stevens de la même période. On peut sûrement l'interpréter de bien des manières, mais au fond, c'est assez simple. C'est la voix qu'un athée appellerait le surmoi, hein, ce qu'en psychanalyse on considère comme l'idéalisation du moi, le moi parfait, qui s'adresse au moi réel. Et puis, en lui disant, ben voilà, t'as le choix, tu peux aller vers le haut, tu peux descendre vers le bas, en gros c'est ça. Et pour un croyant, c'est encore plus simple, c'est la voix de Dieu qu'on entend en soi, qui vous met au pied du mur. Alors soit tu continues ta route, qui te met dans le mur, soit tu m'écoutes et tu essayes de faire mieux. Enfin, il existe évidemment une troisième voie possible, celle de vous foutre complètement de toutes ces histoires. Mais enfin, cela dit, écouter George Harrison et être indifférent ou déchirement de l'âme humaine, ça me paraît honnêtement difficile. À part ça, j'ai fait une vraie découverte en parcourant tous les titres du coffret All Things Must Pass. Il y a une chanson qui s'appelle Woman Don't You Cry For Me, et c'est, on la connaissait, enfin moi je m'en souvenais plus, mais enfin je me suis renseigné, c'est par elle que commence, dans un style funky country soul à la Little Feat, pour ceux à qui ça dira quelque chose, un album pas très bon, hein, de Harrison, qui est apparu en 67, qui s'appelait 33 1/3. Alors, j'ignorais que, en fait, c'était à l'origine un blues d'une rare pureté et d'une rare beauté qu'il avait enregistré en 1970 au cours des séances de All Things Must Pass. Jugez-en par vous-même.
way to go, baby, won't know to cry for me. But the time to play, and I don't need no complications. Locked you in tight, better look after yourself before the end comes along. So one thing I wanna see, that's the Lord got to try to keep him inside. Better look after yourself, baby, come on, won't you let me be.
Maybe you'd have to give him his own mic. Still my guitar gently weeps. I don't know why. Nobody told you how to unfold. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning while my guitar gently weeps. With every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted. You were perverted too. I don't know how you were inverted. No one alerted you. I look from the wings at the play you are staging, while my guitar gently weeps, as I'm sitting here doing nothing but aging. Still my guitar gently weeps.
Bien sûr, sans la guitare de Eric Clapton, ça s'envole moins, mais il y a une qualité comme ça, très chaleureuse, très intime, dans cette version de travail de Why My Guitar Gently Weeps. On trouve ça dans la réédition de l'album blanc des Beatles. Voilà, c'est fini pour ce soir. Demain, on trouvera les Beatles dans des reprises inattendues. Merci à Stéphane Ronxin qui a réalisé l'émission. Merci à... à Sofiane Active, à la technique. Merci à François Merlin et à Zora Ben Smiley. Et tout de suite après les informations, eh bien, vous retrouverez Laurent Goumard et son côté club.